Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Diagne en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes vendredi 1er décembre 2017 au sommaire. Tirage au sort de la Coupe du monde de football 2018 en Russie. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Un nouveau gouvernement au Zimbabwe, l'armée et les cadres de la ZANU-PF bien représentés. Célébration de la journée internationale de lutte contre le sida, la maladie recule dans plusieurs pays africains. Et ici aux États-Unis, Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a été inculpé pour avoir menti au FBI, la police fédérale. Il a plaidé coupable. Également dans ce journal, l'économie, mais tout d'abord le journal. Actualité oblige, nous allons commencer cette édition du football avec du football, avec le tirage des groupes qui vont s'affronter en 2018 pendant la Coupe du Monde en Russie. Et pour en parler, Nicolas Pinot est avec nous dans ce studio. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane.
Alors, le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc ont connu des fortunes diverses.
Sous les yeux du président russe Vladimir Poutine, le pays organisateur, la Russie, a hérité d'un groupe A plutôt relevé au regard de son niveau actuel. Lors de ce tirage au sort qui a été effectué au Kremlin, si la Russie jouera son premier match le 14 juin au stade Loujniki de Moscou contre l'Arabie Saoudite, les Russes devront ensuite affronter l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez et aussi l'Égypte de la star de Liverpool, Mohamed Salah. Dans le groupe B, ça va être dur également pour les Marocains. Bon, Portugal, Espagne, Maroc et Iran. Hervé Renard l'a dit, on a tiré les deux monstres de ce tirage. On rappelle évidemment que le Portugal, champion d'Europe 2016 et l'Espagne, championne du monde 2010. Dans le groupe C, plutôt facile pour la France, face à l'Australie, le Danemark et le Pérou. Dans le groupe D, les Argentins qui héritent encore une fois du Nigeria dans une Coupe du Monde. À noter également l'Islande et la Croatie. Maradona, la star argentine qui était sur place, a dit que ce tirage était assez accessible pour les Argentins. On rappelle, Abdourahmane, que le Nigeria a battu l'Argentine récemment en amical 4-2. Dans le groupe E, a priori facile pour le Brésil face à la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Et dans le groupe F, championne du monde en titre, l'Allemagne sera opposée au Mexique, à la Suède et à la Corée du Sud. Enfin, les deux derniers groupes avec les deux derniers représentants africains. Tout d'abord, le groupe G avec la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Le dernier groupe H, plutôt équilibré, entre quatre sélections avec chacune leur star évidemment. La Pologne de Robert Lewandowski, le Sénégal de Sadio Mané, la Colombie de Radamel Falcao et le Japon, on s'en souvient en Afrique, avec le sélectionneur Vahid Ali Lodzic.
Alors Nicolas, selon vous, est-ce que l'Afrique va passer le premier tour de cette Coupe du Monde?
En tout cas, on peut nourrir des espoirs légitimes pour le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte. C'est d'ailleurs l'avis du président de la Confédération africaine de football, Armat, qui réagit ce soir en exclusivité sur VOA Afrique depuis Moscou.
Comme vous savez, le football d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Il n'y a plus de petites équipes et tout peut arriver. Il y a un bon tirage au sort. La majorité des groupes sont équilibrés.
Ça va être dur pour le Maroc, hein?
Oui, c'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. On peut pas prédire quoi que ce soit aujourd'hui dans le football moderne. Il faut se battre, c'est tout. Bien préparer, se battre, voilà, et être au point au jour J et à l'instant T du match. Et je crois que le plus important aujourd'hui.
On peut en tout cas légitimement penser que l'Afrique aura au moins un représentant en huitième de finale?
Je pense même pas un seul. Je pense qu'on peut envisager 2-3 au tour suivant.
Voilà le président de la Confédération africaine de football, Armat. Autre avis ce soir sur les ondes de VOA Afrique, celui de Cheikh Fantamadi Diallo, entraîneur malien de différentes sélections nationales.
Je pense qu'il y a le Sénégal et le Nigeria qui leur donnent vraiment plus de 50% de chances de passer. Maintenant, le football africain en ce moment progresse énormément. Et les trois autres, je pense qu'ils ont encore le chance de passer.
Voilà, Cheikh Fantamadi Diallo, entraîneur malien, joint par Bagassi Koura. On rappelle, Abdourahmane, le tirage au sort pour les sélections africaines. Dans le groupe A, Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Le groupe B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Le groupe D, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Le groupe, évidemment, G, avec la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Et le groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie et Japon.
Merci beaucoup, Nicolas Pinot. Alors, le reste de l'actualité sur VOA Afrique, en République démocratique du Congo. Au moins une personne est morte dans ce pays lors des marches de l'opposition hier contre le président Joseph Kabila. Des marches interdites et réprimées par les forces de sécurité. La victime est morte à Butembo, dans la province du Nord Kivu, fief de plusieurs groupes armés. Plus de 12 000 personnes fuyant les violences en RDC se sont réfugiées en Zambie depuis janvier. C'est ce qu'a annoncé l'ONU, qui dénonce aussi le sous-financement énorme des opérations d'aide dans ce pays. Le président camerounais Paul Biya dénonce des attaques à répétition d'une bande de terroristes sécessionnistes, une déclaration qui fait suite à la mort de 6 éléments des forces de sécurité tués mardi en zone anglophone par des séparatistes présumés. Et puis un navire en provenance du Nigeria à destination de Douala au Cameroun vient d'être attaqué par une bande armée en mer. Une information de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap, confirmée par une source de sécurité à Douala qui a donc requis l'anonymat. L'attaque survient au moment où toute la haute hiérarchie militaire est réunie depuis ce matin à Yaoundé dans un strict huis clos. Après une conférence de presse sévèrement réprimée à Brazzaville hier, des avocats congolais, sénégalais et français ont accusé les forces de sécurité du pays de violence et d'atteinte à la liberté de la presse. Clairement Angibourg.
La conférence de presse devait se tenir dans les locaux de l'hebdomadaire catholique La Semaine africaine. Un groupe de journalistes, dont le correspondant de l'AFP et d'Africa News, devait rencontrer les avocats d'André Okombi Salissa, ancien ministre et membre de l'opposition. Plusieurs journalistes ont été tabassés et ont vu leur matériel confisqué. Un comportement qui dénote une volonté de museler la défense et la presse, a dénoncé le groupe d'avocats. Les directions de l'AFP et de RFI ont également condamné les violences envers leurs correspondants qui souffrent de perforations aux oreilles à la suite de l'agression. Joint par l'AFP ce soir, le ministre congolais de la communication, Thierry Mungala, a indiqué qu'il ignorait tout de l'agression, mais qu'il condamne les faits si les journalistes étaient visés en tant que tels. Candidat à l'élection de 2016 contre le président Denis Sassou Nguesso, André Okombi Salissa est inculpé depuis le 23 janvier 2017 pour atteinte à la sûreté de l'État.
Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a nommé les premiers membres de son gouvernement, mais sans l'opposition. On fait le point avec Raissa Girondin.
Emmerson Mnangagwa a constitué hier son équipe gouvernementale. Le nouveau président zimbabwéen a récompensé les soutiens qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, un changement dans la continuité. C'est le retour d'anciens caciques du parti au pouvoir, comme Patrick Chinamasa aux finances, un portefeuille qu'il a déjà occupé sous le régime Mugabe. Le général Sibusiso Moyo, qui avait annoncé à la télévision le coup de force militaire, s'est vu confier les affaires étrangères. Le maréchal Perence Chiri, chef de l'armée de l'air depuis de nombreuses années, a reçu le portefeuille de l'agriculture, un domaine important pour le pays. Pas de gouvernement d'union nationale, car il n'y a aucun membre de l'opposition dans cette nouvelle équipe. L'annonce du nouveau gouvernement a refroidi les espoirs de changement de la population après 37 ans de régime Mugabe.
Un ressortissant portugais kidnappé au Nigeria le mois dernier avec une demande de rançon est mort en captivité, ce qu'a annoncé ce vendredi le ministère nigérian des Affaires étrangères. Fin octobre, cet ingénieur en génie civil avait été enlevé par des hommes en armes alors qu'il inspectait la construction d'une route. Lors de son enlèvement, deux policiers engagés pour garantir sa protection avaient été abattus par les ravisseurs. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Les hommes sont moins susceptibles que les femmes d'effectuer un dépistage du VIH ou d'accéder à la thérapie antirétrovirale. Par conséquent, sont plus exposés au risque de mourir de maladies associées au sida. Selon Gina Molissa.
Selon un rapport de l'ONU-SIDA, à travers le monde, moins de la moitié des hommes séropositifs sont sous traitement, comparé à 60% des femmes séropositives. Les hommes risquent plus que les femmes de commencer le traitement tardivement, de l'interrompre ou de ne plus être répertoriés comme suivant un traitement. Le sida ou les maladies associées ont fait 1 million de morts dans le monde en 2016 et environ 1,8 million de personnes supplémentaires ont été infectées. En Afrique subsaharienne, les hommes vivant avec le VIH ont 20% moins de chances de connaître leur état sérologique que les femmes. Ils sont aussi moins nombreux à avoir accès au traitement. Les homosexuels sont par ailleurs 24 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les hétérosexuels. Selon ONU-SIDA, en 2016, quelques 36,7 millions de personnes dans le monde ont vécu avec le VIH et moins de 21 millions d'entre elles ont eu accès à un traitement antirétroviral. Les Nations Unies se sont fixées comme objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 dans le monde.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, coup de tonnerre dans le dossier de l'ingérence russe présumée dans la présidentielle de 2016. L'ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump a été inculpé. Michael Flynn, qui a plaidé coupable, est accusé d'avoir menti au FBI. Le point avec Anastasie Toudiech.
Michael Flynn a plaidé coupable, il n'y aura donc pas de procès. Il a été inculpé hier, entre autres, pour avoir menti sur la teneur de ses échanges avec Sergei Kislyak, ancien ambassadeur russe à Washington, notamment au sujet des sanctions imposées par les États-Unis à la Russie. En plaidant coupable, il indique qu'il est disposé à coopérer avec les enquêteurs, ce qui soulève toutes sortes de questions sur les informations qu'il s'est engagé à livrer aux enquêteurs. Jusqu'où ira-t-il pour tenter d'échapper à la prison? Mettra-t-il en cause des proches de Donald Trump, voire le président lui-même? Ni le président américain, ni la Maison-Blanche n'avaient réagi en milieu de matinée à ce rebondissement de taille qui assombrit ce qui s'annonçait comme une journée de victoire pour M. Trump avec le vote probable par le Sénat de sa grande réforme fiscale.
Toujours aux États-Unis, le Sénat reprend les débats ce vendredi sur la grande réforme fiscale promise par le président Donald Trump. La majorité républicaine espère que d'ultimes arbitrages permettront de faire adopter le texte. Les sénateurs poursuivaient leurs négociations en coulisses pour réécrire in extremis leur texte de réforme fiscale. Un soudain accroc qui a donné des sueurs froides au chef de la majorité. L'ONU cherche 22,5 milliards de dollars pour soutenir les personnes touchées par les conflits et les catastrophes dans le monde en 2018. Les conflits, en particulier les crises prolongées, continueront à représenter la cause principale des besoins en 2018, a expliqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Mark Lowcock. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et voafrique.com. On passe tout de suite à l'actualité économique, la Minute Éco présentée par Eric Manera Kiza.
Les nouvelles technologies menacent les emplois dans le monde. D'ici 2030, entre 400 et 800 millions de personnes pourraient perdre leur emploi et plus de 375 millions se tourneront vers de nouveaux emplois, soit environ 14% de la main-d'œuvre mondiale. D'après le cabinet de recherche McKinsey Global Institute, tout le monde devra acquérir de nouvelles compétences pour cet ajustement macroéconomique. Les gouvernements et les entreprises privées devront mettre la main à la pâte. La pilule pourrait être amère, prévient ce cabinet britannique. Les cours du café, du sucre et du cacao ont tous baissé cette semaine. La faiblesse de l'offre et de la demande ont contribué à la déprime des prix de ces produits. Le Cameroun veut augmenter de 150% de la taxe d'aéroport pour les vols internationaux. Elle passera de 10 000 francs CFA à 25 000 francs CFA. L'année dernière, le trafic aérien a connu une hausse de 26%. Yaoundé attend une arrivée massive de touristes lors de la CAN 2019 qui se tiendra au Cameroun. Enfin, le Togo reçoit de l'Union européenne près de 2 milliards et 170 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale. Ce financement vise à favoriser l'accès des femmes à la vie politique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'était Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Nous revenons sur la journée internationale de lutte contre le sida. Les Nations Unies veulent, d'ici 2030, mettre fin à l'épidémie de sida dans le monde. En Afrique subsaharienne, les hommes vivant avec le VIH sont moins nombreux à accéder au traitement et à connaître leur état sérologique. Pour en connaître les raisons, Eric Manirakiza a joint à Genève le directeur de l'information stratégique auprès de l'ONU SIDA, Peter Geis.
Nous pensons qu'il y a peut-être deux grands facteurs qui influent sur cela. Le premier, c'est que, disons, c'est par rapport au statut de l'homme et de la femme dans une société où souvent dans des sociétés, l'homme est considéré comme quelqu'un qui doit être fort, responsable du revenu de la famille, etc. Et donc, ça peut influer sur la possibilité des hommes de se dire malade, de se dire intéressé à leur santé et donc d'accéder à des services de santé. L'autre facteur, c'est qu'il y a des services de santé qui se dirigent spécifiquement aux femmes, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à la grossesse. Ce sont des services qui sont destinés à des femmes. À cause de ça, les femmes auront plus d'utilisation de services de santé et même il peut y avoir une perception que certains services sont vraiment, disons, destinés aux femmes et pas aux hommes. Et donc, ça peut influer sur le comportement des hommes.
En 2016, il y a eu 1 million de morts dans le monde et près de 2 millions de personnes supplémentaires infectées. Cela veut dire que les gens n'ont pas vraiment saisi les moyens de prévention.
Nous avons vu aussi ces dernières années une diminution du nombre de nouvelles infections. Parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus. C'était au-dessus de 3 millions de personnes qui étaient infectées par année. Et donc, il y a quand même eu du succès dans la prévention de nouvelles infections. Et donc, il y a plusieurs programmes qui ont influé sur ça. Il y a tout ce qui a rapport à l'éducation, les connaissances sur le sida, mais aussi si le comportement, que ce soit au niveau du nombre de partenaires ou aussi l'utilisation du préservatif ou encore des programmes de prévention qui sont spécifiques, par exemple l'accent qui est mis sur la circoncision médicale dans certains pays et aussi les programmes pour les populations clés, que ce soit les travailleuses de sexe ou aussi des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Le traitement, non seulement il va étendre la vie de la personne qui vit avec le VIH, mais il va aussi diminuer la charge virale de ces personnes. Et donc, en diminuant la charge virale, on va diminuer la probabilité de transmettre le virus.
L'ONU SIDA veut en finir avec cette pandémie d'ici 2030.
Bon, pour le moment, c'est difficile à dire, mais c'est en tout cas une ambition à laquelle on veut aspirer. Pour le moment, donc, il y a 16% de moins de nouvelles infections quand nous comparons l'année 2010 à l'année 2016. Il est effectivement possible d'atteindre ces objectifs.
C'était Peter Geis, le directeur de l'information stratégique auprès de l'ONU SIDA. L'Union africaine veut évacuer d'urgence 3800 migrants de Libye. Certains vont transiter par le Niger avant d'être renvoyés dans leur pays respectif et d'autres seront réinstallés en Europe. Ces évacuations paraissent compliquées, notamment en matière de logistique et de capacité d'accueil. Nathalie Barge a joint à Niamey Nabara Amidou, responsable de l'ONG Jeunesse Enfance et Développement.
Cette situation sera plus compliquée que ce qu'on a souhaité, d'autant plus que personne ne maîtrise les chiffres sur les personnes concernées actuellement par le problème en Libye. C'est une situation chaotique. Vous avez par-ci, par-là, un gouvernement reconnu par la communauté internationale. De l'autre côté, Haftar qui contrôle une partie du territoire. Vous avez les milices de part et d'autre dans le pays qui, si vous voulez, sont impliqués chacun selon un certain degré.
Que selon vous, le Niger est bien équipé au niveau logistique et matériel pour recevoir ces migrants?
Ça fait longtemps que déjà des autorités locales d'Agadez se plaignent sur des opérations de rapatriement rapatriements qui ont été faits des migrants subsahariens à partir d'Algérie et qui se retrouvent à partir d'Agadez sans ressources et que les communes là ont malheureusement un déficit, si vous voulez, en termes d'infrastructures d'accueil et des services minimums qui pourraient être accordés aux migrants. Et on voit que les autorités affirment vouloir s'engager dans cette perspective, mais en réalité, un dispositif d'accueil et de prise en charge n'est pas totalement satisfaisant et qui puisse répondre vraiment aux normes minimales en termes de protection des migrants qui sont dans la nécessité. Et le droit international interdit de ramener une personne dans son pays quand elle risque la répercussion.
Alors justement, l'Union européenne a bien précisé qu'elle intégrerait donc certains de ces migrants donc, qui ont le statut de réfugiés. Est-ce que vous pensez que cette affaire, l'affaire de la Libye, cette affaire qui se passe en ce moment, va permettre une nouvelle politique d'immigration entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus ouverte, notamment avec plus de collaboration avec les pays tiers?
C'est ce que nous souhaitons. On a dit au-delà de la crise qui secoue actuellement la Libye, la grande partie des causes de ce qui se passe à Libye est liée en partie aux politiques qui sont menées par l'Union européenne sur les questions d'immigration et dans lesquelles elle essaie aussi d'impliquer les pays africains. Beaucoup de pays africains n'avaient pas de stratégie sur les questions d'immigration. C'est avec la crise migratoire à partir de 2015, suite au sommet de la Valette, que certains pays africains ont essayé d'aller dans le sens d'élaborer des politiques migratoires qui sont, si vous voulez, largement inspirés de la politique de l'Union européenne. Et nous espérons que ces drames-là devraient interpeller toutes les parties prenantes pour accepter que la migration soit effectuée dans la dignité. Cela passe par un allègement des conditions d'immigration.
C'était Nabara Amidou, responsable de l'ONG Jeunesse en France et Développement au Niger.
Et Kabadou avec vous ce soir dans votre émission interactive À votre avis. Le tirage au sort de la Coupe du Monde de football prévue en Russie vient de donner les pays des différentes poules. Qu'en pensez-vous et quels sont vos paris? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com. À tout à l'heure.
L'inclusion, c'est un des concepts en vogue en ce 21e siècle. L'idée est simple, pour une situation ou une activité donnée, inclure toutes les composantes de la société sans discrimination de genre, de race ou de capacité physique. La preuve par l'exemple, au centre des aveugles de Togoville, à 80 km de Lomé, une association a lancé un projet d'équipement d'ordinateur pour la formation de jeunes élèves non-voyants. Un reportage de VO Afrique rendu par Raissa Girondin.
Nous sommes à l'Institut des aveugles de Togoville. Situé à une centaine de kilomètres au sud-est du Togo, ce centre accueille des jeunes non-voyants âgés de 12 à 20 ans. Grâce à une formation en informatique, ils manipulent aisément un ordinateur de la mise sous tension à la déconnexion. Les élèves du centre savent comment scanner des documents, ils écrivent des textes, reçoivent et envoient des emails et parlent à des correspondants via Skype. Kossi Sewonu, élève à l'Institut.
Grâce à ce projet, moi je suis capable et aujourd'hui de créer des dossiers et de saisir des tests et de scanner, d'aller sur Internet.
Les enseignants et formateurs de l'Institut sont aussi des non-voyants. Après une formation spécifique donnée dans le centre par des bénévoles, ils sont désormais mieux outillés pour accompagner les élèves qu'ils encadrent. Tout se passe via un système audio et des raccourcis clavier. Kojo Mensa, enseignant à l'Institut.
L'accès à l'informatique des personnes non-voyantes est facilité par des lecteurs d'écran, dont JAWS. La solution d'accès au travail grâce à la parole. Donc vous écoutez JAWS parler et il vous dit tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Il lit l'information, il lit l'environnement de votre travail et il peut facilement vous indiquer parfois ce que vous devez faire dans telle ou telle condition pour contourner des difficultés.
Ce programme connaît un franc succès. Il participe ainsi à l'inclusion sociale des déficients visuels. La réflexion est en cours pour améliorer quantitativement et qualitativement l'accessibilité des non-voyants au contenu sur Internet par la mise à disposition d'autres matériels.
Merci. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Direction Johannesburg pour rencontrer une jeune artiste qui fait son petit bonhomme de chemin dans le monde de la chanson. Sisana a fait face à plusieurs obstacles avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. La mort de ses parents, le chômage, la famine. Elle a malgré tout rejeté un contrat d'enregistrement offert par un grand label pour garder le contrôle sur sa musique et sur son identité. Elle a fini par créer sa propre boîte de production. Salwa Jafari l'a rencontrée à Johannesburg alors qu'elle se préparait à entamer une tournée internationale. Reportage.
J'ai décidé d'enregistrer mon propre album. Je n'ai pas de studio, je n'ai personne. Les studios sont chers. J'ai des enfants et je dois payer le loyer. Je touche 900 dollars quand je travaille comme choriste. Alors j'ai pris la décision de rentrer chez moi, mais de ne pas acheter de la nourriture. Je sais qu'on n'en a pas assez.
À 26 ans, Sisana a fait l'impensable. Tourner le dos à trois labels de musique pour s'embarquer dans une aventure solo à ses risques et périls. Nous l'avons rencontrée dans ce modeste complexe d'appartements à Johannesburg. Elle y vit avec ses trois frères cadets.
Je suis une maman à temps plein. Je m'occupe de deux ados et d'un garçon de 10 ans. Je vis ici depuis 2011. Ma grand-mère est morte. J'ai pris en charge mes petits frères, mais je vais déménager bientôt.
Sisana a connu la faim, le froid, la peur de voir sa famille se retrouver dans la rue. Mais elle n'a jamais perdu espoir. L'espoir qu'un jour, sa musique serait écoutée sur toutes les ondes. Cette musique avec laquelle elle a grandi sur les plaines du Swaziland.
Je chantais et j'attendais que les montagnes me répondent avec un écho.
À l'université, elle choisit d'étudier le journalisme audiovisuel. Elle rêve de devenir Oprah, de chanter un jour sur la chaîne nationale.
J'ai passé 2 à 3 ans à me renseigner sur les labels de musique. Ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est quand ils t'enregistrent. Ils font tout et tout leur appartient.
Elle peine à joindre les deux bouts après la mort de sa grand-mère, fait des petits boulots, travaille comme choriste pour des chanteurs de renom. Elle se serre la ceinture et avec ses économies, elle enregistre son premier album. Africa is my home. Africa. L'Afrique, c'est sa maison qu'elle va bientôt quitter pour une tournée internationale qui l'amènera en Europe, aux États-Unis. Sisana, la chanteuse, la productrice, ira à la Coupe du Monde.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au menu. Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami, à la console Dan Crafton. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.